Lutte des sidérurgistes et de leurs complices dans les Ardennes, 1979-1984. Documentaire radiophonique en 3 épisodes. Troisième et dernier épisode, les différentes actions des sidérurgistes pour se faire entendre et la signature du plan social.
Aïe, t'es pas un peu espagnol ou...
Non ?
Là, on vient de m'informer que les deux personnes qui étaient encore incarcérées hier viennent d'être libérées. Radio La Pointe sur 102 MHz en modulation de fréquence, mais vous pouvez toujours venir vous rassembler à la mairie de Viremolin.
La radio, elle a été montée à l'initiative de beaucoup de gens. Comment ça,
est-ce que oui, il a fallu du monde pour la monter. Rien pour monter le mât, il a fallu le faire parce qu'on l'a fait sur place. Alors, on a été faire tailler une antenne spécialement sur la longueur. On a des personnes de Vireux pointues en électronique électricité qui nous ont fait des amplis.
Il y a beaucoup de monde qui participait à la radio.
Oui. Ben, ça c'est pareil, c'était tout ça. Celui qui venait qui avait du temps. Rien n'était défini. Il ne fallait pas croire qu'il y avait des commandes de ceci ou de cela. Ouais. Non, le mec qui venait, il avait du temps. Il passait du temps, c'est tout. Ouais, ça marchait.
Et le journal La Pointe, c'était à la même époque que la radio.
Dans le même temps. Hein.
Combien de temps ?
Dans le même temps. Il y avait des personnes qui ne sont plus là, qui sont décédées, là, qui écrivaient, les éditoriaux et tout ça. Des gens de Vireux, oui. Et puis beaucoup les manifestants, beaucoup les extérieurs, puisque le journal ne se faisait pas ici. Hein. Si on n'avait pas eu ces gens-là, il n'y aurait pas eu de journal, hein. Ça c'est clair. Hein. Nous, la Chienne, on n'était pas là pour... On n'avait pas le matériel pour faire ça. Hein. Le matériel pour bloquer le pont, c'est tout. Hein, puis ça nous a aidé à nous faire connaître dans toute la pointe, à monter la radio pour nous faire entendre et dire ce qui se passait. Hein, plus le petit journal par derrière, et puis l'apport de personne. Ça a rééquilibré les choses.
La première radio, donc c'était Radio Chauffe qui peut, 78-79, en même temps que le mouvement des radios libres. Et donc c'est des copains belges, au départ, qui... aux gens de Chauffe tout le matériel pour faire des émissions. Alors, Radio Chauffe qui peut, c'est une radio qui, comme nous on faisait sur Reims, c'était une radio qui émettait une ou deux fois par semaine, de façon assez clandestine, qui s'est arrêtée pendant un petit moment, et qui, quand les sidérurgistes sont rentrés dans la lutte, c'est le matériel qui a été déclassé à Vireux, et c'était les sidérurgistes qui animaient. Donc on a repris le matériel pour faire Radio La Pointe. Bien que c'était plus ou moins interdit, ils n'avaient pas d'autorisation et tout, tout le monde savait de chez qui ça émettait. Par exemple, pendant les manifs, les gens téléphonaient systématiquement pour te dire les mouvements de flics, nana. À cette époque, il y a eu plusieurs des radios de lutte qui sont montées. À l'époque, dans les luttes, ce n'était pas des cas isolés, quoi.
La radio, il y avait des missions tous les jours. C'était un peu au fil de l'eau, quoi. Tu avais des discussions, il y avait des informations qui étaient données. Bon, on prenait les journaux et on triait tout ça, on arrangeait ça. Je dis pas à notre façon, c'était tout à fait objectif. Mais on essayait de relater au mieux ce qui se passait, quoi. C'était surtout pour... Quand tu voyais ce qui était relaté ici, à la télé ou à la radio, c'était quand même assez succinct, c'était court. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est vrai, qui ont été transformées dans le mauvais sens. Que là, bon, c'était quand même pour donner davantage d'informations aux gens et essayer de faire parler un maximum de monde, quoi. Puis je vais pas dire que c'était une mode, mais c'était le moment des radios un peu contestataires, un peu... Puis ça permettait à tout un chacun de se... pouvoir s'exprimer un peu plus franchement qu'au Radio National. Quoi. Enfin, de toute façon, ça, à partir du moment où tu deviens, où ça se légalise, bon, ça n'a plus du tout le même intérêt. Quoi. Tu peux plus faire ce que tu veux, tu peux parler ce que tu veux, donc la critique devient difficile.
Qu'est-ce qui se passait, par exemple, le reste du temps, en fait ? Parce qu'en fait, il y avait cette grosse manif tous les derniers samedis du mois.
Alors entre les deux, il se passait énormément de choses dans le du côté des ouvriers évidemment, hein, puisque eux-mêmes ils avaient donc leur organisation très active. Hein, bon, ils se sont livrés à une multitude d'attaques, de sabotages de leurs différents ennemis, hein, c'est-à-dire pas simplement leur patron, mais bon aussi les flics, l'État via la perception, via des installations d'EDF, la télévision, ils se sont exprimés. Bah, ça allait de pair avec les attaques contre les médias, quoi, pour tenter de se faire entendre.
Alors bon, il y a eu plusieurs choses qui ont été programmées. Hein. Il y a eu les pylônes. Ce qui me vient comme ça à l'esprit, il y avait aussi un projet de voie ferrée. On devait faire exploser la voie ferrée. Donc les séquestrations, il y a eu la mise à sac des impôts. Oui, les séquestrations. La séquestration de...
Tu te rappelles un peu le contexte.
Oui, séquestration de M. Noël Fourjard. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas... Je crois que c'était une histoire, si mes souvenirs sont bons, c'était une histoire de réunion qui n'avait pas été tenue. Après, il y a eu séquestration du patron de l'usine, qui s'appelait M. Jean-Marie Chappe. On voulait forcer les pouvoirs publics à prendre des décisions, en sachant que chaque fois qu'on vous promet quelque chose, si vous ne mettez pas les points sur les i, ben ça traîne. Donc il faut un jour dire, bon, stop, on négocie. Mais bon, sans savoir que les gens n'étaient pas malheureux, hein, on fait toujours un monde après autour des séquestrations de personnes, mais c'est pas dramatique, au contraire, c'est une expérience. Moi, je dis que c'est une expérience pour tout le monde, pour la personne séquestrée et pour les gens qui séquestrent. C'est une bonne opération, finalement. Tout le monde apprend quelque chose. Quand on a quelqu'un devant soi pendant 24 heures, il voit comment on vit, il voit comment on voit. On peut discuter librement, et je pense qu'on arrivera peut-être mieux à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la tête des individus. C'est, moi, je dis que c'est pas dramatique, une séquestration, au contraire. Ça ne peut être que bénéfique.
Situation tendue entre directeur sans cravate et geôlier. Cette séquestration se poursuivra durant 48 heures et n'apportera aucun élément nouveau.
Et qui commençait par vous faire chier, monsieur.
Que cette nuit, vous avez fait une pression morale, ici, sur des personnes ici, une pression physique, parce qu'on ne peut pas dormir, monsieur. Voilà ce qu'il faut dire dans la presse.
Ça, ça veut dire que nous, ça fait 6 mois qu'on ne dort pas, parce qu'on va nous foutre, on va nous foutre à la porte.
Après cette séquestration, il y a eu une réunion de programmés et qui devait avoir lieu à Revin. Ces messieurs de la direction ne se sont pas présentés parce qu'ils n'avaient absolument rien à nous proposer de concret. Le lapin de la direction va porter la colère à son apogée. En représailles, les sidérurgistes brûlent le château de la Buchère, ancienne résidence du directeur de la Chine.
Le château, quand il a brûlé, ça, c'était un mouvement qui devait nous emmener à Revin pour une discussion. Et puis là, ça a mal tourné parce qu'il y avait des représentants des forces de l'ordre, pour ne pas les nommer, le PSIG, qui a été reconnu, qui s'est fait agresser, qui a sorti un pistolet. Et là, les gens se sont vraiment mis en colère. Ils sont redescendus et ont brûlé le château du directeur.
Mais pas, non, juste par rapport
à... le directeur n'habitait plus dedans. Hein.
Il était déjà parti.
Ouais, mais c'était une...
bon, ça a été fait, c'est tout. Il n'y a plus à juger ça. Quoi, hein.
Une action qui a fait pratiquement l'unanimité contre nous, c'était l'incendie du château. Beaucoup de personnes dans l'agglomération n'ont pas apprécié cette forme de contestation. Alors, dans les gars qu'il y avait dans la boutique, ça c'est encore le sel de la situation, il y avait des pompiers volontaires chez nous qui travaillaient à la boutique, qui sont venus avec nous, qui ont foutu le feu au truc avec nous. La sirène a sonné, ils ont dit, bon, les gars, excusez-nous, on est obligé d'y aller, plop. Ils ont foutu le camp, et puis ils sont ramenés après en équipement. Quoi. Ça, c'était bien.
Mais du coup, il n'y avait pas de divergence, finalement, par rapport aux moyens qui étaient employés entre, par exemple, les habitants de Véreux, les sidérurgistes entre eux.
Le climat, je crois qu'il y a eu une certaine tolérance, quand même. Sinon l'acceptation de tout ce qui a été fait, mais une certaine tolérance, parce qu'ils ont quand même dû se rendre compte qu'on ne faisait pas ça pour le plaisir. Hein. on avait passé l'âge de jouer aux cow-boys et aux indiens. Hein.
Pour eux, c'était un passage obligatoire dans la mesure où, effectivement, ils faisaient parler d'eux. Ils faisaient qu'on ne les, on pouvait pas les oublier. Et l'affaire n'était pas close. Moi, je pense que ça, ils en étaient conscients. Parce que l'équivalent de ce qu'ils ont fait samedi après samedi, ils auraient mis 600 000 personnes à manifester en faisant non, 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 oui, oui, oui. Ils n'ont rien obtenu. Tu fais une petite destruction, comme dans le capitalisme, ils comptabilisent. Ah, on commence à parler.
Il y a des gens qui s'organisent en se passant des syndicats, tout en restant, beaucoup restent syndicalisés. Et il y a toujours des gens qui sont, disons, qui n'hésitent pas à franchir le pas, tu vois, à rompre avec le... à s'affronter au syndicat, à leur syndicat, et à chercher comme ça une forme d'autonomie. Il y en a plein à Dunkerque, je vous parlais de Dunkerque, des ouvriers de Dunkerque qui venaient, ils avaient créé aussi un syndicat de lutte des travailleurs, et eux, ils étaient autonomes, ils se déplaçaient à Viru, ils ne demandaient pas à la CGT de Dunkerque s'il fallait y aller, ou si, quel mot d'ordre, et tout, ils y allaient... C'était une époque où il y avait vraiment, ça poussait quoi, à l'intérieur des syndicats. Ça. Donc c'est tout ça, c'est la forme, à la fois la forme d'organisation, à la forme de rébellion. Par exemple, Viru Vivra, c'était un truc qui était réellement clandestin, c'est-à-dire quand tu parlais à des gens même avec qui tu t'entendais bien, quoi, personne ne t'aurait dit qu'il était de Viru Vivra. C'est un truc marrant parce que souvent on parle de groupe clandestin, c'est super hermétique et tout. Et là, en fait, à la fois, tout le monde savait qui c'était, puisqu'il y a 2000 habitants, je crois. Par là. Non, il y avait des désaccords, il y avait des gens qui étaient contre. Parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent scandaleux de détruire une perception. Mais tout le monde respectait leur clandestinité, quoi. C'était, Viru Vivra, c'était un peu l'arme cachée de Viru quoi.
Au départ, à la Chière, les syndicats habituels, les grosses centrales syndicales, elles étaient là, toutes représentées, comme partout ailleurs. Mais très très vite, dès le début de leur lutte, quoi, ils ont créé cette intersyndicale. Alors en même temps, elle avait le discours qu'elle pouvait avoir, c'est-à-dire c'était une intersyndicale légale, on va dire, ça restait du syndicalisme. Mais c'est sûr qu'il y avait des connexions entre l'intersyndicale et VV. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas VV d'un côté et l'intersyndicale de l'autre. En fait, VV, c'était, vu le type d'action qui menait, hein, qui était illégal, et c'était, on va dire, un petit peu l'appareil clandestin bon, d'une lutte dont l'intersyndicale pouvait être la vitrine légale, on va dire.
À partir de janvier 82, il y a des sabotages qui ont été faits dans la région qui était signé VV ou autre.
C'est vrai qu'il y avait VV, mais il y avait aussi quelques petites organisations individuelles que finalement beaucoup de choses se sont faites avec des inscriptions VV, alors que VV n'était pas au courant. Donc des gens servaient du sigle VV pour de temps en temps montrer leur mécontentement. C'est des fois des gens ont des impulsions comme ça, hein, subites, et puis ils mettent en application ce qu'ils ont envie de faire.
Il y a eu pas mal d'actions qui, par exemple, ont été condamnées par l'intersyndicale ou
oui,
par
mais,
les syndicats.
Oui, mais là aussi, bon, je pense qu'il faut parler des choses vraies. Ce n'est pas le tout de condamner l'action quand on l'a programmée. Parce que moi, je connais des actions qui ont été dénoncées par les syndicats, alors que c'était eux qui étaient à la base. Donc, tout ce qui s'est fait comme action, souvent, c'était... Ce n'est pas toujours les mêmes personnes, certainement pas. C'était trois personnes ou deux personnes ou une personne qui se connaissent, soit qui travaillent ensemble dans l'usine, soit qui sont ensemble dans la vie privée. Il faut aussi une certaine confiance aussi quand vous faites une action, une certaine confiance à donner envers l'autre.
La question de la violence, elle se posait pas. Les ouvriers, ils arrivaient, ils construisaient une barricade, et dans la barricade, ils planquaient des bouteilles de gaz pour essayer de faire exploser les blindés. Plusieurs fois, quand nous on était pas là, mais on lisait ça en journal, ils avaient tiré au fusil sur les cartes de CRS. La question de la violence, c'est une question qui s'est jamais posée. La question, c'était c'est les questions tactiques. J'ai pas vu de logique gestionnaire de la lutte, où les gens disent faut pas faire ça parce que on va criminaliser aussi, parce que on va se foutre je sais pas quoi à dos. Les gens étaient dans un tel niveau de rage, et il y avait la durée aussi qui fait que les gens étaient vraiment dans des logiques insurrectionnelles, c'est peut-être exagéré, mais quasi. C'était vraiment, les gens étaient considérés comme une guerre de basse intensité, mais c'était le rapport de force pur.
Est-ce que les gens auraient imaginé faire des actions qui dépassaient le cadre de la légalité avant le conflit ?
Non, ils n'auraient pas imaginé. Parce que dans tout être humain, il y a une petite révolte qui se montre à l'intérieur. On est tous un peu révolutionnaires. Donc est-ce qu'à certains moments de la vie, une chose fait que la personne va se révolter ? On ne peut pas dire à l'avance, la veille, on peut pas dire ce gars-là va se faire ça, non. C'est au point par point, au coup de tête, finalement, que ça se passe. On a tous quelque chose qui nous tient à cœur quelque part. Hein. Mais c'est bien d'ailleurs, c'est bien d'être. On n'est pas des moutons moi-même, hein. Faut pas se laisser faire. Moi, j'ai été surprise par l'attitude de certaines personnes que je pensais jamais qu'auraient fait certaines choses. Ça réveille quelque part des choses qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Pourquoi, on ne sait pas. Quand on prend ses idées, puis qu'il y a une autre personne qu'on ne pense pas, et puis qu'un jour fait quelque chose avec les mêmes idées que vous, ça crée des contacts, ça crée des liens. Hein. Tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, on arrive à discuter. Qu'avant, on ne peut pas discuter. On ne connaît pas la réaction des gens. On n'est pas du tout.
Après des mois d'inquiétude, de colère, d'affrontements parfois avec les forces de l'ordre, les 800 ouvriers de la Chière ont finalement, dans leur grande majorité, accepté le plan social qu'ils ont négocié avec la direction d'Usinor et les pouvoirs publics.
Quand on regarde un peu les garanties qui existaient, effectivement, elles sont uniques. À ma connaissance, il n'y a rien d'équivalent jusqu'aujourd'hui. En compensation d'une fermeture de boutique. Je donne un exemple. Dans le plan social, avait été négociée une garantie de salaire la plus élevée, qui était de 90% du salaire net, et ça pendant tout le temps où il n'était pas reclassé. Les emplois ont commencé à être supprimés à la Chière en 83. Le dernier est parti donc au mois de novembre 89. 83 à 89, donc il était couvert dans ces conditions-là. C'est déjà quelque chose qui sort du commun. Maintenant, pour ceux qui étaient reclassés, ils avaient droit à deux erreurs. Ils allaient prendre un poste chez un kidam quelconque, et puis ils s'apercevaient que ça n'allait pas. Ils étaient repris à l'effectif, aux mêmes conditions qu'il en était parti. Pour ceux maintenant qui sont partis, il y a ceux qui sont retournés dans leur pays, qui percevaient une prime de retour, qui était renforcée par une prime qui était versée chez nous aussi, et par une somme de, je parle en ancien franc, hein, c'était 8 millions à cette époque-là qui était mis en plus. Et pour les derniers qui sont partis, donc ils avaient bénéficié de toute cette couverture financière, et ils sont encore partis avec un RICA de 20 millions. Je ne pense pas qu'ils puissent dire que c'était un plan social qui était mauvais. Il a été dit aussi qu'il y en avait eu un comme ça et qu'il n'y en aurait plus jamais de comme ça. Ça a été dit au niveau de la direction générale et au niveau des instances supérieures.
Ça, c'est une détermination aussi. 2 ans, c'est vrai que c'est long.
Ah, tous les jours, des moments où c'est plus...
Bah, plus gros, violent une fois par mois, mais tous les jours à vivre ça quand même. Hein. Mmh. Il y a des moments où on sait que c'est foutu, bon, c'est tout, c'est foutu. Mais ça sera foutu, mais pas sans rien. Quoi. Ça coûtera cher de foutre en l'air. Et je crois que ça a coûté cher.
Ouais, ça leur coûte extrêmement cher. Mmh.
Moi, j'ai pas vécu ça spécialement en larmoyant ou en disant c'est foutu, non. La preuve, c'est qu'on est encore là, qu'on s'est débrouillé. Mais pas grâce à eux, hein, bien sûr.
Enfin, nous, on avait l'impression justement que les ouvriers, ou même les gens à Virou, ils étaient tout à fait conscients que les reclassements qu'on leur proposerait, ils seraient pas...
Non, mais c'était de la poudre aux yeux et de l'argent foutu en l'air. Que voulez-vous reproposer comme reclassement à des ouvriers? Des gens qui ont passé leur vie en usine. Les reclasser où? À la centrale, où c'est du pointu, c'est du travail pointu, où il faut être formé déjà d'avance. Hein, dans une autre usine, oui, mais il n'y en a pas. Hein, ou partir, pour aller où? Nous, on vous a proposé un emploi sur Creil. Oui, l'emploi, oui, mais le logement, non, quoi. Quand vous arrivez et qu'on vous dit que vous allez habiter là, ouais, ça fait 15 ou 20 étages de haut, ça fait 200 ou 300 mètres de long, et puis qu'il n'y a que des petits trous, avec une porte comme là, pour mettre les lapins. Nous, on vient de là, on est dans la nature, dans la verdure. Non. Alors on est revenu ici au chômage. Et puis en fin de compte, on voit que certaines personnes, dont vous verrez tout à l'heure une personne qui va venir, qui va rester des années chez elle à être payée en salaire total, pendant des années. Donc, tant mieux pour eux, les idiots, c'est nous d'avoir cherché du travail, quoi. Non, eux, ils ont bénéficié, ils ont su jouer avec ça, mais ils ont eu raison.
Quand l'État a décidé que c'en était fini, qu'il ne voulait plus de ces manifestations-là, ça a été très simple, quoi. Il lui a suffi de couper quelques routes et on ne pouvait plus accéder à Vireux. Là encore, bon, bah, cette situation géographique là, de Presqu'île, elle a été aussi, après coup, un désavantage terrible pour eux, puisque ça a été assez simple après pour leurs ennemis de les isoler, y compris géographiquement. Et ensuite, là, ça a été terrible aussi pour des gens comme nous, parce que même avec notre meilleure volonté, on est revenu en cherchant vraiment à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour casser cet isolement, il faut reconnaître notre défaite, quoi. On n'a pas eu la force et les moyens de briser cet encerclement, de briser cet isolement, et ils ont morflé très dur, quoi, les gens de Vireux, ouais, très très dur, quoi, hein, à tous les niveaux, quoi.
Bon, les gens se sont vus encore un petit moment après, mais bon, après c'était fini, quoi, c'était terminé. Il y avait un éclatement quand même. Bon, il y a eu des gens qui sont allés en formation, le mouvement était terminé, quoi, si tu veux. Le mouvement était terminé. Il n'y a plus réellement de contact après entre les gens. Bon, sinon, tous les problèmes qu'on a eu qui se créaient dans les familles, ça a été quand même des points importants qui ont été mis en avant encore un moment après. Quoi. Bon, il y a des gens, des gars qui ont été obligés de partir bosser ailleurs. Bon, il y a eu des divorces, il y a eu plein de choses, quoi. Et quoi faire d'autre, c'est pas de partir à l'extérieur qu'arranger les affaires. Il y a des problèmes de travail un peu partout.
Après, il y a eu signature du plan social, donc, qui a été signé par les organisations syndicales. Après ça, une fois que c'est signé, basta, chacun dans son coin.
Et ça a été dur comme contre-coup.
Que ça s'arrête d'un seul coup?
Ouais.
Non, ça se fait par là. Ça se fait dans la routine des choses. Au contraire, moi j'ai retrouvé un emploi, donc... Vous êtes pris par votre emploi, vous ne pensez même plus à la chair, après c'est fini, vous n'y pensez plus du tout. Vous travaillez pour votre nouvel patron, et puis ben, la vie continue. Mais une fois que vous avez trouvé un emploi, après c'est fini, vous oubliez complètement la phase de bataille.
Et comment ça s'est passé justement dans le village après la fermeture de l'usine?
Ça, c'est vrai que ça a été un peu plus dur ça, pour les gens. Hein, on a vu beaucoup de familles se séparer, des divorces, des suicides par rapport à ça. Et ça existe partout en France. Chaque fois qu'il y a une fermeture d'entreprise, il y a des problèmes. Il y a la vie de chacun qui change parce que bon, on n'a plus son boulot, on n'a plus son train-train quotidien. Parce que c'est le train-train quotidien, finalement, l'usine. Hein. Vous avez le matin, l'usine. Jardin, le bois, l'usine. Hop. Et puis ça marche comme ça. Une fois qu'il n'y a plus ça, ben, les gens changent. Parce que quand vous êtes à l'usine, quand on a les copains, les amis. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait dimanche? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que là? Tout va en vacances. Bon, tout ça, ça crée un lien de convivialité que vous n'avez plus quand vous n'avez plus de travail. C'est ça le plus dur.
Parce que la lutte, elle reste en mémoire.
La lutte reste en mémoire de tous ceux qui ont participé. Ça reste ancré. Il y a une petite case là, qui est remplie avec la lutte. Il n'y a rien à faire. Sur ce qui s'est passé à la Chière, certains témoignent, certains ne veulent pas témoigner. Pourquoi ? C'est ça aussi, je me bagarre. Moi, j'ai un copain qui ne veut pas témoigner. Ben, pourquoi ? Pourquoi on n'a rien à se reprocher ? Parce que tant moi je ne serai plus là, ou d'autres ne seront plus là pour le dire, personne ne pourra le raconter à notre place. Et moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de choses à dire sur la vie qu'on a vécue. Et la vie, c'est pas... Je dis toujours, entre nous, hein, c'est une tatine de merde, on en mange un morceau tous les jours. Et c'est vrai, c'est comme ça.
La dernière fois qu'on y a été, on n'était pas nombreux, on était une trentaine. On s'est retrouvé bloqué à la frontière, la ville était occupée par les flics. On a réussi à rentrer dans la ville, c'était une cité fantôme. Il n'y avait personne, les gens ne parlaient pas, on croisait les gens, les visages étaient fermés. Alors qu'ils avaient obtenu une victoire. Hein. C'était assez bizarre. Le fait qu'effectivement, ça s'est toujours bien passé, mais qu'il n'y ait pas eu de lien fort, de mon point de vue à moi, mais... Mais même, faut pas mythifier les choses. Les liens forts, ils étaient dans l'instant, dans l'affrontement. Ou peut-être inter-individuel, avec des petits groupes de gens, entre des gens qui sont vraiment devenus copains, qui sont vraiment devenus machin, mais globalement, il n'y a pas eu le fait que ça passe à autre chose. Et je dis pas que ça aurait été possible, hein. Je dis juste, bon, c'est un constat. C'est comme ça. Le fait de se revendiquer comme ouvrier, le fait de revendiquer sa spécificité, le fait qu'effectivement l'homogénéité elle se fait sur une spécificité qui n'est pas partageable avec d'autres situations empêche l'extension. Donne de la force mais empêche l'extension.
Et par exemple pour toi ça a changé les points de vue que tu pouvais avoir
À moi ça a changé fondamentalement beaucoup de choses. Des moments, vivre des moments comme cela, parce que je parlais de l'atmosphère, de un rapport direct et qui est vraiment un sentiment de communauté avec les gens, avec vraiment n'importe qui. C'est quelque chose qui donne une qualité, une dilatation du temps. C'est vraiment vivre. Il y a une intensité de vie là-dedans qui est 10 fois plus intéressante que n'importe quelle vie au quotidien. Je pense que c'est de ça dont parlent les gens quand ils te racontent 68. 68 qui est un truc bidon, qui a duré un mois et demi, où les gens ils peuvent t'en parler 40 ans après, comme le truc le plus formidable de leur vie. Et t'as l'impression qu'ils ont plus vécu en un mois et demi que pendant leurs 40 ans autres de leur vie, bah c'est ça. Le fait de pouvoir partager ça avec des gens, je pense que c'est une des choses les plus formidables qu'on puisse vivre. Donc c'est ça la victoire, entre autres. Enfin entre autres, c'est surtout ça la victoire. C'est de pouvoir, c'est cette intensité de vie que tu partages avec les gens pendant la lutte. Non, c'est vraiment ça. Et pouvoir le généraliser, pouvoir l'étendre, etc. Je vois pas d'autre perspective que celle-là. Au niveau vraiment humain, au niveau de ce que j'ai envie de vivre, de là où je ressens du plaisir, mais du plaisir réel. Tu t'amuses pas, mais tu as vraiment un plaisir intense, réel, quelque chose de très fort. Et où tu t'aperçois que les gens sont fondamentalement différents et peuvent être tout est possible. Tout est possible. Tout peut être remis en question. C'est pas tout est remis en question. Il y a des possibilités qui sont. Il y a des latitudes énormes.
Certainement qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais il faudrait qu'on soit plus. Mmh. Plus de mémoire. Vous dites, moins on en parle, plus on oublie, donc on en parle de moins en moins.
C'est vrai, on n'en parle jamais. Hein, non.
Les souvenirs qu'il y avait, c'était plutôt des souvenirs positifs de ces deux ans.
Bien sûr, oui, il n'y a pas de négatif. Enfin, si, le seul négatif là-dedans, c'est l'usine qui n'est plus là. Mmh. Mais tout le restant, c'est, bien sûr, c'est du positif quand même. On a fait ce qu'on a fait, et puis on a été fiers de l'avoir fait, c'est vrai, oui. Ça aurait pu servir d'exemple à bien d'autres. On peut arriver à quelque chose en se défendant, quoi. Même si c'est pas sauver la boutique, on peut quand même essayer de vivre un peu mieux.
Fin du troisième et dernier épisode. L'intégralité du montage est disponible sur Internet à l'adresse suivante. internetdown.org